VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 28 mars 2023. Au Ghana, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, appelle à plus d'investissements en Afrique. Au Kenya, le président William Ruto appelle la population à respecter l'état de droit après les manifestations et les appels au calme de la part de l'Union africaine. La partie magazine, nous reviendrons sur la grâce présidentielle au Tchad pour 259 rebelles.
Cette situation dépasse même le deuil. Dès que tu te réveilles le matin, le téléphone sonne, tu as le cœur qui bat. Cette situation, c'est-à-dire c'est vraiment stressant. Donc on lance vraiment un appel à l'endroit du gouvernement de penser aussi à libérer ceux-là qui sont restés là-bas.
Reportage à suivre de notre correspondant N'Djamena. Au Mexique, au moins 39 migrants meurent dans l'incendie d'un centre de détention à la frontière sud des États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accroître la production de matériel nucléaire et militaire et à fabriquer des armes plus puissantes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé ce mardi à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique. C'était au deuxième jour de sa visite au Ghana, première étape de sa tournée sur le continent. Le point avec Rosine Monezero.
Les idées et innovations africaines vont façonner l'avenir du monde et nous devons investir dans l'ingéniosité et la créativité africaine qui vont déboucher sur une croissance économique et des opportunités incroyables, a déclaré Madame Harris à des entrepreneurs à Accra. Elle a mis l'accent sur plusieurs domaines qui pourraient bénéficier de plus d'investissements, l'émancipation des femmes, l'économie numérique, la bonne gouvernance et la démocratie, évoquant les nombreux défis comme l'insécurité, le changement climatique et les obstacles à la croissance économique. Madame Harris a assuré que les États-Unis resteront un partenaire inébranlable pour le progrès du continent, répétant ainsi les mots du président Joe Biden lors du sommet États-Unis-Afrique, l'an dernier. Lundi, elle a annoncé 139 millions de dollars d'aide au Ghana en proie à une grave crise économique. La vice-présidente américaine doit quitter le Ghana mercredi et se rendre à Dar es Salaam en Tanzanie, puis en Zambie, dernière étape de sa tournée africaine.
Le président kenyan William Ruto exhorte ses concitoyens à respecter l'état de droit au lendemain de manifestations émaillées de violences et de pillages organisées à l'appel de l'opposant Raila Odinga et qui ont fait au moins un mort. L'Union africaine appelle au calme et au dialogue. Jacques Aristide.
Depuis l'Allemagne, où il se trouve en déplacement, William Ruto demande aux Kenyans de se soumettre à l'état de droit et affirme que l'impunité ne sera pas tolérée. C'est ce qui nous rend égaux, personne ne doit bafouer les droits d'autrui, déclare le chef de l'État kenyan devant des membres de la communauté kenyane en Allemagne, selon un communiqué publié aujourd'hui. Raila Odinga a appelé à des manifestations bi-hebdomadaires chaque lundi et jeudi, mais qui ont été interdites par les forces de l'ordre. Le vétéran de l'opposition de 78 ans accuse le président Ruto d'avoir volé la présidentielle de 2022 et d'être incapable de juguler l'explosion du coût de la vie. Hier, des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser des protestataires à Nairobi et dans la ville de Kisumu. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé ce mardi sa profonde inquiétude à propos de la violence qui a provoqué un décès, entraîné des dégâts matériels et interrompu certaines activités économiques. Moussa Faki Mahamat a également exhorté toutes les parties en présence au calme et a entamé un dialogue pour surmonter toute divergence dans l'intérêt suprême de l'unité et de la réconciliation nationale.
La justice sénégalaise a annoncé aujourd'hui avoir arrêté des membres d'un groupe qui visait à semer le chaos et l'insurrection dans le pays pour empêcher le procès jeudi à Dakar de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par un ministre. 4 personnes ont été interpellées pour association de malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public, incendie criminel, et 19 sont recherchés selon le procureur général. Le préfet de Dakar a interdit les des marches prévues demain mercredi et jeudi dans la capitale en évoquant des menaces réelles de troubles à l'ordre public. M. Sonko et ses supporters accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. Un pétrolier danois sous pavillon libérien a été attaqué par des pirates au large du Congo-Brazzaville dans le golfe de Guinée et le contact a été perdu depuis 3 jours avec l'équipage de 16 marins, a annoncé aujourd'hui son armateur. L'attaque est survenue samedi soir à l'ouest du port de Pointe-Noire. Aucune communication avec les marins de ce pétrolier n'a eu lieu depuis, affirme la compagnie dans un communiqué. Les autorités tunisiennes ont commencé à couper l'accès à l'eau potable la nuit dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres villes. Des coupures non annoncées ont été signalées à Tunis, à Mamet, Sousse, Monastir ou Sfax. La Tunisie est frappée par une grave sécheresse et des responsables gouvernementaux ont dit envisager des restrictions cet été pour réduire la consommation, mais l'absence de pluie semble avoir précipité cette mesure drastique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, première violence dans les manifestations contre la retraite à 64 ans, alors que le dialogue est dans l'impasse. Des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté aujourd'hui à Nantes, où une agence bancaire a été incendiée, le tribunal administratif visé, ainsi qu'à Rennes, où de nombreuses dégradations ont eu lieu. Les syndicats qui ont mis en garde contre un dérapage incontrôlé de la contestation n'entendent pas renoncer sur l'âge de départ à la retraite, clé de voûte de leur mot d'ordre. Au moins 39 morts et 29 blessés dans l'incendie d'un centre de détention de migrants dans le nord du Mexique. Le feu a débuté peu avant minuit. Des pompiers et des dizaines d'ambulances ont été mobilisés. Alexandrine Ollognon.
L'incendie a commencé dans la zone où sont hébergés les étrangers sans papiers. Les blessés, dans un état grave, ont été hospitalisés dans 4 hôpitaux. L'Institut national des migrations dit avoir établi des contacts avec les autorités consulaires des différents pays pour l'identification des personnes décédées. De nombreux migrants ont été transférés dans ce centre ces derniers jours après une campagne des autorités locales contre les vendeurs de rue qui comptent beaucoup d'étrangers. Le site était gardé par des militaires et la garde nationale. Ciudad Juárez est l'une des villes frontalières d'où de nombreux migrants cherchent à gagner les États-Unis pour demander l'asile. D'après l'Organisation internationale des migrations, depuis 2014, plus de 7 500 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre les États-Unis.
La Corée du Nord a présenté ce mardi de nouvelles ogives de taille réduite et affirmé vouloir produire davantage de matériel nucléaire. Des annonces coïncidant avec l'arrivée en Corée du Sud d'un porte-avions américain. Les précisions de John Lyndon.
L'agence de presse officielle nord-coréenne a diffusé des photographies d'ogives nucléaires et relaté la visite du dirigeant Kim Jong-un à l'Institut des armes nucléaires où il a passé en revue de nouveaux équipements destinés à des missiles balistiques. Lorsque le pays aura préparé à la perfection ses systèmes d'armes nucléaires, l'ennemi nous craindra et n'osera pas provoquer la souveraineté de notre État, notre système et notre peuple, a dit M. Kim. Cette mise en garde survient alors qu'un porte-avions de la marine américaine est arrivé mardi en Corée du Sud. Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des années. Séoul et Washington multiplient les manœuvres militaires conjointes, tandis que Pyongyang procède à des essais d'armement de plus en plus sophistiqués.
Au Portugal, un homme armé d'un couteau a tué au moins 2 personnes et fait plusieurs blessés avant d'être neutralisé par la police portugaise au cours d'une attaque contre le siège mondial à Lisbonne des Ismaéliens, une communauté musulmane chiite dirigée par l'Aga Khan. Les premiers éléments pointent vers un acte isolé, a déclaré le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa dans un communiqué. Le ministre israélien de la Défense, dont le limogeage par le premier ministre Benjamin Netanyahou a porté la crise politique du pays à son paroxysme, reste en poste jusqu'à nouvel ordre, ont déclaré des collaborateurs ce mardi, illustrant l'indécision du gouvernement malmenée par la contestation sur son projet de réforme de la justice. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est résolu lundi à reporter l'examen l'examen parlementaire de la réforme de la justice très contestée, alors que le projet a provoqué de vastes manifestations dans le pays et fait craindre une rupture au sein de la coalition au pouvoir. Et puis la commission électorale birmane, mise en place par la junte au pouvoir, a annoncé aujourd'hui que la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, va être dissoute. La LND, qui a largement remporté les élections législatives en 2015 et 2020, verra son statut de parti politique automatiquement annulé à partir de mercredi, faute d'avoir rempli les conditions pour se réinscrire. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamedou Mfa.
Au Cameroun, le prix maximum du cacao et du café a augmenté pour la deuxième fois en moins d'une semaine, passant de 1280 francs CFA le 24 mars à 1290 francs le 28 mars, selon l'Office du cacao et du café. La nouvelle hausse du prix maximum dans les bassins de production survient selon investirocameroun.com, alors que la petite saison des pluies s'intensifie au Cameroun. Cette période est généralement marquée par une dégradation de l'état des routes, avec pour conséquence une décote sur les prix des fèves. La compagnie aérienne kényane Kenya Airways a annoncé le 27 mars les deuxièmes pires résultats de son histoire avec une perte de 290 millions de dollars en 2022. Sans l'impact des pertes liées au change et l'augmentation anormale du prix du carburant, nous aurions réalisé un bénéfice d'exploitation, a souligné le PDG de la compagnie aérienne sur Twitter, faisant allusion à l'affaiblissement du shilling kényan. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé mardi à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique lors de la première étape de sa tournée sur le continent. Elle a mis l'accent sur plusieurs domaines qui, selon les États-Unis, pourraient bénéficier de plus d'investissements, l'émancipation des femmes, l'économie numérique, la bonne gouvernance et la démocratie.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la CAN 2023, le Cameroun battu par la Namibie lors de cette quatrième journée.
Oui, déjà tenu en échec à domicile par la Namibie 1-1 lors de la troisième journée, les Lions indomptables ont été surpris par les Namibiens 2-1 ce soir. Du coup, la Namibie se classe première de la poule C avec 5 points devant le Cameroun, deuxième avec 4 points. Le Burundi ferme la marche puisque le Kenya a été disqualifié. Ça se complique aussi pour le Gabon, leader du groupe I. Les Gabonais se sont inclinés hier dans un match important face au Soudan à Omdurman, 1-0. Les Panthères devront donc batailler jusqu'au bout pour arracher leur qualification. Par contre, dans la poule D, l'Égypte a remis les pendules à l'heure. Grâce à leur victoire 4-0 au Malawi, les Pharaons comptent 9 points en 4 journées et se repositionnent. À noter aussi ce soir la victoire en déplacement du Cap-Vert en Eswatini, 1-0, et celle de la Guinée équatoriale devant le Botswana, 2-1. Le Nsalang national prend la tête du groupe J en attendant l'issue du match ce soir entre la Tunisie et la Libye.
La liste des pays qualifiés pour cette CAN s'élargit.
Après le pays hôte, la Côte d'Ivoire qui affronte les Comores, le Maroc et l'Algérie, le Sénégal, champion en titre, a arraché son ticket pour la CAN 2023 grâce à sa victoire 1-0. Au Mozambique, ces pays pourront être rejoints ce soir par le Burkina Faso. En cas de victoire devant les éperviers à Lomé, le Mali devra encore attendre. Les Aigles ont été battus par la Gambie 1-0. Cette victoire relance les Scorpions gambiens qui comptent 6 points, soit autant que le deuxième. Le Congo qui a battu le Soudan du Sud 1-0. Dans le groupe I, la République démocratique du Congo voudrait enchaîner face à la Mauritanie. Après sa victoire à l'aller, 3-1 lors de la troisième journée à Lubumbashi.
Basketball à présent et nous parlons de la NBA.
Nikola Jokic et les Nuggets battent Philadelphie. Minnesota gâche la fête à Sacramento. Les détails avec Bagassi Koura.
Tout était prêt à Sacramento pour fêter le retour des Kings dans les playoffs, une première depuis 2006, mais la fête a été gâchée par Minnesota, vainqueur 119-115, avec notamment 20 points de Jaden McDaniels. Les Timberwolves emportent leur quatrième succès consécutif et reviennent à hauteur du champion en titre, Golden State, à la sixième place à l'ouest. Denver a poursuivi son parcours en tête de cette conférence en battant Philadelphie 116-111 grâce au 29e triple-double de la saison de Nikola Jokic, 25 points, 17 rebonds et 12 passes décisives. Les Sixers ont joué sans leur vedette Joel Embiid. laissé par l'entraîneur au repos à cause d'un mollet douloureux. Dallas, qui restait sur 4 défaites, s'est remis en marche sur le parquet des Pacers à Indiana, 127-104. Milwaukee, déjà assuré de la première place à l'Est, a amélioré son record de victoire en NBA, 75, avec un succès contre Détroit, 126-117. À New York, Emmanuel Quickley a inscrit 40 points pour les Knicks, vainqueurs de Houston, 137-115, et qui reste 5e à l'Est.
Merci, Bagassi.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, après des centaines de rebelles du FACT, c'est au tour de manifestants arrêtés suite aux événements du 20 octobre de bénéficier de la grâce présidentielle. Une mesure prise par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, et accueillie avec satisfaction à N'Djamena. Toutefois, elle ne prend pas en compte certains manifestants arrêtés qui n'ont toujours pas été présentés à un juge. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Ils sont 259 sur 262 manifestants condamnés le 2 décembre lors des audiences foraines dans le bain de Kourou-Tourou pour des faits d'attroupement non autorisé, destruction des biens et troubles à l'ordre public. Madame Patricia Bouimarman, porte-parole du collectif des femmes victimes des événements tragiques du 20 octobre, se réjouit de cette mesure présidentielle.
Mon mari est pris en compte, il y a son neveu aussi, et mon neveu à moi aussi est pris en compte, mais c'est son cousin Germain qui est toujours à Kourou. Tout ce qui importe pour moi, c'est que mon mari puisse rentrer auprès de ses enfants. C'est vraiment un effet de soulagement pour nous.
En sa qualité de la porte-parole du collectif des femmes victimes des événements tragiques du 20 octobre, elle plaide pour la libération de tous les prisonniers manifestants.
Cette situation dépasse même le deuil. Dès que tu te réveilles le matin, le téléphone sonne, tu as le cœur qui bat. Cette situation, c'est-à-dire, c'est vraiment stressant. Donc, on lance vraiment un appel à l'endroit du gouvernement de penser aussi à libérer ceux-là qui sont laissés là-bas.
Ne voyant pas sur la liste des personnes gracié le nom de son fils âgé de 20 ans arrêté le 20 octobre, Papa Ousmane, habitant le 9e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena, implore la clémence des autorités de transition.
Son nom c'est Andjefa Ousmane. Il est en vie mais il est toujours là-bas au Korotoro. Alors je ne sais pas qu'est-ce que l'État veut faire avec ceux qui ont été détenus toujours là-bas au Korotoro. Alors nous sentons tellement inquiétés quoi.
Pour le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, si un seul de ces militants en liberté et en vie, c'est important pour la suite de la lutte.
Le document annonçant la libération prochaine de 259 de nos camarades parle d'attroupement non autorisé comme motif de leur arrestation. Alors que pendant ces 5 derniers mois, on a passé le temps à dire aux Tchadiens qu'ils ont été arrêtés à cause d'insurrections et de coups d'État. Et on a dit même qu'on a massacré ces gens les mêmes nuits parce que ce serait de la légitime défense. Donc vous voyez que l'argument insurrection et coup d'État a fatalement disparu dans ce document. Donc c'est au moins le début de la fin des mensonges répétés en boucle.
Maître Max Loalngar, porte-parole de la coalition Wakitama, qualifie cette décision de la comédie dont le but réel est d'empêcher de parler des événements du 20 octobre.
Sur le plan juridique, on accorde une grâce aux personnes qui sont véritablement et définitivement condamnées et donc qui, de ce fait-là, n'ont plus aucune voie de recours. Or, s'agissant de nos camarades, ils ont relevé appel de la décision unique les condamnant. Il aurait fallu donc que leur sort soit décidé en deuxième instance. On pourrait le comprendre. S'ils voulaient envoyer un message d'apaisement, la chose à faire serait été simplement de mettre nos camarades en liberté provisoire le temps que la procédure se poursuive et que l'on sache la réalité de ce qui s'est passé.
Beaucoup d'autres manifestants détenus dans les prisons de N'Djamena, Kourou-Tourou et dans les provinces du Sud ne sont pas encore situés sur leur sort, puisqu'ils n'ont pas été présentés à un juge. André Kodomadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burkina Faso, la question de la liberté de presse inquiète les professionnels. Des journalistes sont fréquemment menacés. Des médias comme RFI et France 24 ont été suspendus. Le gouvernement estime que dans ce contexte de guerre, les journalistes ne doivent pas servir d'amplificateurs pour les terroristes. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Après la suspension de Radio France Internationale il y a 3 mois, le gouvernement a suspendu hier lundi la chaîne de télévision France 24. Il a aussi mis en garde le journal Libération, lui imputant des accusations extrêmement graves contre les forces de défense et de sécurité burkinabè dans un de ses articles. Aussi, des journalistes et des organes de presse au plan local font régulièrement l'objet de menaces. Issoufou Ouédraogo, journaliste indépendant, a déjà reçu des menaces.
Avoir peur d'exercer le métier, je suis pas dans cette logique parce qu'il y a des personnes plus importantes que moi qui ont fait le métier, qui ont laissé leur vie, notamment notre père, notre guide, Norbert Zongo. Donc ça veut dire que c'est un sacerdoce. Ça veut dire que si tu as la passion de quelque chose, tu le fais tout en respectant les règles. Donc en m'inscrivant dans cette logique, je n'ai pas peur de continuer à exercer le métier, mais il faut réellement avoir une carapace très forte parce que ce que j'ai reçu comme appel anonyme, il faut vraiment avoir une tête bien faite pour ne pas décliner parce que ça sort hors du cadre du travail. Et je sais pas, peut-être s'il y a des antécédents que j'ai eu à poser et que d'autres veulent profiter de la situation, je n'en sais rien, mais je reste droit dans mes bottes.
Bourayma Ouédraogo, directeur de publication du journal Les Reporters, dénonce une restriction de la liberté de presse dans le pays.
Il y a comme une dynamique, effectivement, qui n'est pas favorable à la liberté et de la presse au Burkina Faso. Ensuite, nous avons toutes ces menaces ourdies par les soutiens, ou en tout cas des gens qui se réclament soutien du pouvoir en place, qui menacent ouvertement et à visage découvert des journalistes amont, qui menacent d'incendier les domiciles et les médias. Et tout ça, effectivement, sont des éléments qui inquiètent à plus d'un titre et qui sont des menaces contre la liberté de la presse dans notre pays.
Jean-Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement, s'exprimant sur la suspension de France 24, demande davantage de professionnalisme des journalistes.
Au-delà, bien sûr, de ces médias, c'est inviter tous les médias, tous les professionnels, à faire leur travail en toute conscience et avec le maximum de professionnalisme. Le gouvernement reste profondément attaché à la liberté de presse, à la liberté d'opinion. Mais le Burkina Faso est dans une situation de guerre et nous n'allons accepter que personne aujourd'hui serve d'amplificateur du message terroriste ou de la cause terroriste.
Il y a quelques semaines, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela avait demandé au Conseil supérieur de la communication qu'il y ait une régulation des débats sur les plateaux. Dernièrement, le capitaine Ibrahim Traoré, depuis Kaya, a relevé qu'il y a des médias qui ne jouent pas franc jeu, leur demandant d'accompagner la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Mettre le numérique au service de l'inclusion sociale, c'est l'ambition que porte le programme digital au Togo. Il s'agit d'un projet initié par une activiste des droits des femmes et des filles. Cette dernière est très engagée pour l'autonomisation sociale et économique des femmes à la base. Reportage à Lomé de notre correspondante Amène Assignon.
Le téléphone portable, objet de toutes les attentions lors de cet atelier de formation, un peu particulier, destiné aux femmes des communautés à la base. Ici, on forme sur l'usage utile de cet outil technologique et les opportunités qu'il offre dans le secteur économique. Consultante entrepreneuriale, Akouvi Honkou milite en faveur des droits de l'homme et surtout du leadership féminin. Avec son association Coude à Coude pour le développement au féminin, elle a mis en place ce programme d'appui pour accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus.
En 2018, nous avons lancé le programme digital qui consiste à former les femmes des communautés à la base. Mais le constat est clair, toutes ces femmes ou bien la majorité a accès au téléphone et utilise WhatsApp qui est une application populaire. Pourquoi ne pas mettre WhatsApp là ou bien les applications populaires au profit de leurs activités génératrices de revenus?
Vendeuse de friperies,
Enam Laté fait partie des bénéficiaires de ce programme. Un programme qui a littéralement impacté positivement son commerce.
Avec cet appareil, on peut tout faire. Tu vois les modèles, tu peux poster ça en statut. Et les gens qui sont dans tes contacts, ils peuvent venir regarder les statuts, les modèles. Si ça les plaît, ils peuvent vous appeler pour le livrer. J'ai le temps aussi de m'occuper de ma famille.
Des astuces simples et efficaces sont donc enseignées aux femmes pour les aider à tirer profit autrement de leurs diverses activités économiques, grâce au numérique, comme l'explique Akouvi Ronkou.
Il y a les statuts WhatsApp, la liste de diffusion, il y a les groupes qu'il faut savoir utiliser, créer d'abord et utiliser. Il y a les étiquettes qui facilitent vraiment la gestion de la clientèle aux femmes là qui utilisent. Et on n'a eu que de bons retours.
Afi est styliste modéliste dans un quartier périphérique de Lomé. L'usage de son téléphone portable, avant, était limité à des appels. Mais aujourd'hui, avec la formation, son appareil lui sert de vitrine virtuelle pour exposer ses créations grâce notamment à l'application WhatsApp.
On nous a appris comment donner plus de visibilité à nos activités sur WhatsApp, ce que je ne savais pas faire avant. Maintenant, j'ai appris à mieux utiliser cette application. Ça me permet de montrer mon savoir-faire et cela me permet aussi d'avoir beaucoup plus de clients.
Porteuse de nouvelles solutions, notamment dans l'entrepreneuriat, l'innovation numérique permet aux femmes d'être plus visibles et favorise leur inclusion. Il s'agit d'une révolution digitale qui répond à un besoin, celui de la promotion du leadership féminin. Un défi que Akouvi Ronkou essaye de relever à travers son programme. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Trois enfants et trois adultes ont été tués hier par un ancien élève lourdement armé dans une école primaire de Nashville, dans le sud des États-Unis. Un drame qui semble prémédité et a rouvert le débat sur les ravages des armes à feu dans ce pays. Le point avec Jacques Aristide.
L'auteur de la tuerie de Nashville, rapidement abattu par les forces de l'ordre arrivé au Covenant High School, a été identifié comme une personne transgenre de 28 ans, répondant au nom d'Audrey Hale. L'assaillant, qui était muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, a laissé un manifeste indiquant qu'il allait y avoir des fusillades dans de multiples lieux, dont l'un était la petite école chrétienne privée de la capitale du Tennessee, école que le suspect avait fréquentée en tant qu'élève. Lundi soir, des fleurs ont été déposées sur un mémorial improvisé à l'extérieur de l'établissement où des personnes s'agenouillaient pour prier. Mehdi et Cheryl, deux habitantes de Nashville.
En tant que chrétiens, nous nous sommes sentis obligés de venir ici pour montrer notre soutien à la communauté de Nashville.
Je me suis sentie en état de choc et j'ai eu l'impression que c'était si proche de chez moi. Et le fait qu'il s'agissait d'une attaque contre nos enfants...
Le mobile encore inconnu pourrait être lié à une rancune à l'encontre de cette école, indique la police. Le président Joe Biden a exprimé son désarroi face à ce crime répugnant et ordonné que les drapeaux de la Maison-Blanche soient mis en berne.
C'est déchirant, c'est le pire cauchemar d'une famille. Je tiens à féliciter la police qui a réagi très rapidement en quelques minutes et a mis fin au danger. Nous devons faire davantage pour mettre fin à la violence armée. Elle déchire nos communautés, elle déchire l'âme de cette nation. Et nous devons faire plus pour protéger nos écoles afin qu'elles ne soient pas transformées en prison. J'appelle à nouveau le Congrès à adopter mon interdiction de fusils d'assaut. Il est grand temps que nous commencions à faire des progrès.
Les États-Unis sont le seul pays développé où se répètent les tueries par armes à feu en milieu scolaire. Chad Baker, un habitant de Nashville.
Non, je ne pense pas que les choses vont changer. Les gens sont juste trop obsédés. Je suis tout à fait pour les droits des armes à feu. J'ai une arme. Je porte une arme sur moi la plupart du temps, mais je n'ai pas besoin d'un fusil d'assaut. Je ne pense pas qu'il devrait être aussi facile d'acheter une arme comme il est aussi facile d'acheter des fleurs. Il n'y a pas assez de mesures pour protéger les enfants.
Environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis. Un sondage ABC News, Washington Post de février montrait que 51% des Américains s'opposent à l'interdiction des fusils d'assaut et que seuls 47% y sont favorables. Le Congrès n'a jamais adopté de réforme significative, férocement combattue par la puissante NRA, la National Rifle Association.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.